Alors ce matin, on va continuer ensemble 2 Corinthiens et on va voir ensemble d'abord comment Dieu voit notre conversion. Comment Dieu voit notre conversion, notre rencontre avec Jésus-Christ. Comment il regarde cela? Ensuite, on verra un danger qui guette les enfants de Dieu. Et puis on verra enfin ce que nous pouvons perdre ou peut-être que nous avons perdu et que nous pourrions retrouver. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens chapitre 11 et on va lire les versets 1 à 20. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 20. Paul dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Alors, eh bien, dans ce passage, on voit de nouveau la grande affection que Paul avait pour ses frères de Corinthe. Il dit qu'il est jaloux d'eux, d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Premier réflexe quand on entend jalousie, c'est de dire oh, c'est un vilain défaut quand même, un péché, la jalousie. Mais en fait, la jalousie, on voit, selon les Écritures, n'est pas toujours un péché en soi. En fait, tout dépend de quelle jalousie il s'agit. Si vous êtes jaloux de la voiture du voisin, de la maison du voisin ou du mari de la voisine, là c'est sûr il y a un problème. À mon avis, vous allez avoir une conscience qui va commencer à peser très lourd sur vous. Mais si vous êtes jaloux de votre conjoint que vous aimez et puis que peut-être vous avez vu des relations un peu trop proches avec quelqu'un du sexe opposé et puis ça crée quelque chose en vous, ben là c'est normal, c'est logique, c'est au contraire la manifestation que vous aimez votre conjoint et donc c'est légitime. Et Dieu a éprouvé une jalousie comme celle-là vis-à-vis d'Israël. Vraiment, ça l'a pris. Il dit par exemple au sujet des Israélites, « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. » Bien encore, dans un autre passage, il dit, « Ils l'irritèrent par les hauts lieux et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. » Pourquoi Dieu était jaloux au sujet d'Israël ? Parce que Israël était comme une épouse Et l'Éternel était comme un époux. Il l'aimait, c'était son amour, Israël. Et spirituellement, on peut dire qu'Israël était uni à l'Éternel. C'était le seul vrai Dieu, ils étaient unis à lui. D'ailleurs, Dieu lui avait dit, hein, avait dit par Moïse, « Écoute Israël, c'est le Shema, Shema Israël, hein. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Mais malgré leur connaissance, malgré la parole de Dieu, malgré les prophètes, malgré les promesses, malgré les sacrificateurs, malgré les miracles, les bénédictions de Dieu, ben Israël s'est détourné et puis a commencé à adorer et à se mettre à genoux devant des idoles et des faux dieux. Et Dieu dit, c'est un adultère spirituel. Vous êtes en train de commettre un adultère. Dieu les considérait comme ses enfants. Et il les avait conduits vers une relation qui était unique, qui était vraie, qui était profonde avec eux. Et eux, eh bien, se détournaient et puis allaient commencer à parler à des statues qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne font rien du tout. Et puis derrière la statue, eh bien, il y a souvent un démon en plus qui écoute lui la prière, qui même parfois essaye de l'exaucer. Donc c'est carrément un adultère spirituel. Alors, eh bien, pour revenir à Paul, il aimait tellement les Corinthiens qu'il considérait comme ses enfants, puisque c'est lui en plus qui les avait amenés à Christ, hein, il les avait enseignés, il avait pris du temps avec eux, et il était blessé de les voir soudain le rejeter et ne plus l'aimer, et se perdre avec des faux apôtres. Il dit verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Comment Dieu voit notre conversion? Comment voit-il notre rencontre avec son Fils bien-aimé? Il dit ici, hein, comme la présentation d'une fiancée à son époux. Et de la même manière que l'Éternel, eh bien, était l'époux d'Israël, Jésus est l'époux de l'Église. Voilà, nous sommes l'épouse, il est l'époux. Et nous sommes comme une fiancée. Et j'aimerais qu'on se souvienne ce matin. Voilà, essayez de repenser, voilà, vous remontez de quelques années, quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Joseph a prié, hein, et a fait une prière, voilà, reconnaissant pour le jour où il a rencontré le Seigneur. Souvenez-vous, quand vous avez cédé votre cœur au Seigneur, quand vous l'avez offert, quand vous êtes vraiment converti à lui, vous êtes né de nouveau. Le jour de votre conversion, en un instant, vous avez été lavé. Il n'a pas fallu des jours, des semaines, des mois. En un instant, vous avez été lavé parce que vous êtes repenti, parce que vous avez cru, vous avez cédé tout simplement votre cœur au Seigneur. C'est ce que les Corinthiens avaient eux-mêmes vécu. Et j'aimerais juste qu'on prenne un passage dans 1 Corinthiens, un petit peu avant. 1 Corinthiens 6, et on va lire les versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est ce qui s'était passé pour les Corinthiens, et c'est ce qui s'est passé aussi pour vous, si vous avez cru. Quoi que nous ayons fait, quels qu'aient été nos péchés passés, nous avons été lavés. Lavé dans une eau pure, tout notre péché est parti. Par son sang précieux, on a été lavé. On a été sanctifié, on a été rendu saint, plus blanc que la neige. Imaginez, on était crasseux, plus blanc que la neige. Il dit, mais vous avez été justifié, c'est-à-dire vous avez été revêtu de la justice de Jésus-Christ. Revêtu de cette justice qui fait que nous, pécheurs, d'un seul coup, nous sommes appelés justes. Vous êtes justes, parfaitement justes, devant moi. En fait, on était tout neuf, tout saint, irréprochable. Et c'est pour ça qu'il dit, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, vous êtes une vierge pure. Dans l'image de la vierge pure, il y a la pureté bien sûr, mais il y a aussi la candeur, il y a l'innocence, il y a la simplicité, il y a quelque chose de précieux, il y a quelque chose d'inestimable. Il y a aussi une fraîcheur. Et l'attachement au Seigneur eh bien, nous garde avec une fraîcheur, avec une spontanéité, hein, un amour qui nous étreint pour sa personne. Christ est tout, Christ remplit tout, il est notre trésor, il est notre bien le plus précieux, il remplit notre vie. Et si on essaie de se souvenir un peu des premiers temps avec le Seigneur, bah forcément, je pense que vous avez des choses dans votre mémoire, vous dites, mais c'est vrai quoi, il y avait des... Voilà, un amour incroyable, voilà, c'est incroyable de pouvoir tout offrir sans que ce soit un effort. Il n'y a pas d'effort. C'est comme quand un jeune homme aime sa bien-aimée, ben, moi je me souviens, on est prêt à faire plein de choses, on est prêt à prendre le train, on est prêt à aller loin, quand on aime vraiment quelqu'un. Eh bien, avec Dieu, c'était la même chose. Dieu était le plus grand. La Bible appelle cela le premier amour. Avoir le premier amour. C'est l'amour pour Jésus qui remplit tout l'horizon. Il prend tout notre cœur, toutes nos pensées, et il n'y a plus d'effort. Mais cet amour-là est quelque chose d'haïssable pour le diable. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu qui aiment leur Dieu de tout leur cœur. Il ne les aime pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les détourner, essayer de les corrompre, essayer de briser finalement cet amour, cette liaison, cette union avec Jésus-Christ. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est ici le danger qui guette les enfants de Dieu, les chrétiens. C'est la séduction du serpent. Être séduit par le serpent. Qu'est-ce qu'a fait le serpent dans le jardin d'Éden, si on remonte dans la Genèse? Il s'est approché tout doucement d'Ève et puis il a commencé à la séduire. Elle et son mari, on peut dire ils avaient une relation unique et proche déjà à l'époque avec l'Éternel, avec leur Créateur. Ils avaient une grande liberté avec eux. En fait, il n'y avait rien entre Dieu et eux. C'était parfait. Et le diable est venu par ruse et il a commencé à vouloir briser cette relation. Alors il a dit à Ève, vous vous souvenez en Genèse 3, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» En fait, il est venu planter une question et le doute dans le cœur d'Ève. Et on peut le comprendre, sachant qu'elle n'avait pas entendu de Dieu lui-même, « Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Elle avait reçu de son mari. Et donc, c'est son mari qui lui avait dit, « Dieu nous a dit, il ne faut pas qu'on mange de cet arbre. » Alors forcément, comme elle avait reçu de son mari, elle pouvait se demander, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ce que mon mari a entendu? Est-ce qu'il n'a pas déformé? Il pouvait y avoir un doute. Alors toutefois, elle a rappelé, non, mais je pense, enfin elle ne dit pas je pense, mais elle dit, mais nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et vous connaissez la suite, alors le serpent, dites à la femme, vous ne mourrez point. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et là, Ève a un sérieux problème. D'un côté, il y a la parole qu'Adam lui a rapportée. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette parole? Elle ne l'a pas entendue de ses oreilles. Hein? Est-ce qu'elle est vraie? Et puis de l'autre, il y a cette séduction d'une bénédiction que Dieu ne semble pas vouloir lui donner. La connaissance du bien et du mal. Dieu peut-être me prive de quelque chose. Et si on analyse la manière de faire du serpent, on voit que d'abord il remet en question ce que Dieu dit. Non, Dieu ne dit pas vraiment ça. Et puis ensuite, il nie. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et puis ensuite, il ment sur les intentions de Dieu. Mais Dieu ne t'aime pas en fait. C'est ça le problème. Dieu ne t'aime pas. Il ne t'aime pas autant qu'il le prétend. Dieu te tient dans l'asservissement. Dieu veut te garder dans l'ignorance. Dieu te prive de quelque chose. Il y a quelque chose de meilleur là. Et le diable est très fort pour venir planter le mensonge dans nos pensées. Pour qu'on pense mal, pour qu'on pense de travers. Et c'est arrivé pour Ève. Paul met en garde les Corinthiens en disant « Attention !» Et donc ça peut nous arriver aussi. Paul dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il parle d'une corruption dans la pensée. Les pensées ne sont plus justes, elles ne sont plus droites, elles ne sont plus correctes. Elles sont atteintes, abîmées, déformées, corrompues. Et le résultat, c'est qu'on se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Alors qu'est-ce que perdre la simplicité à l'égard de Christ? On peut le perdre. Qu'est-ce que cela? On vient d'évoquer le premier amour pour Jésus. Et c'est vrai que les choses sont simples quand on vient au commencement hein, au Seigneur. C'est voilà, c'est tout notre cœur qui se répand, c'est la spontanéité, l'amour, le don de soi, le service, l'affection fraternelle, la fidélité. Et c'est naturel, ça coule, ça sort, ça explose. La relation avec Jésus nous transforme complètement. Et le terme que Paul emploie en grec, et qui est traduit par simplicité, a pour sens simplicité, sincérité, honnêteté mentale, candeur, vertu de celui qui n'a pas de prétention ou d'hypocrisie. Et on peut dire que c'est quelque chose qui apparaît au moment où on donne notre cœur au Seigneur. On est lavé, on est sanctifié, on est justifié, on est entièrement pour Jésus. Il y a de la simplicité, il y a de la candeur, il y a de l'humilité, il y a un attachement naturel à Jésus. Maintenant, il faut se souvenir que l'Assemblée de Corinthe était entraîné par des faux docteurs, des faux apôtres, et était finalement qui les avait tournés contre leur père spirituel, contre l'apôtre Paul. Ils remettaient en question le ministère de l'apôtre Paul. Est-ce que Paul est bien le serviteur qu'il dit être? Est-ce que c'est juste ce qu'il nous écrit en envoyant ses lettres? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce que? Ils venaient semer des mauvaises choses dans leur cœur. Il y avait beaucoup de remises en question de sa sincérité, de son amour, de son enseignement. Au début, ils ont cru à son message, ils ont cru à la bonne nouvelle, à l'évangile, ils ont été sauvés, c'était merveilleux, c'était simple. Mais maintenant, à cause de ces faux docteurs, ils se mettent à analyser, à critiquer, à peut-être intellectualiser, à remettre en question l'apôtre lui-même. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Alors pour illustrer qu'est-ce que peut être la simplicité à l'égard de Christ, j'aimerais qu'on prenne un autre passage. C'est 1 Timothée 1 et versets 5 à 7. Il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Et Paul nomme ici trois choses dont certains s'étaient détournés. Donc c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et on peut dire que c'était ce qui menaçait finalement les Corinthiens en écoutant les faux docteurs. Ils n'étaient plus dans le vrai, ils n'étaient plus dans le juste. On l'a dit, leur pensée commençait à se corrompre, ils n'étaient plus droits de cœur. Et pour ceux qui donnèrent du crédit aux faux docteurs, leur amour pour Paul a commencé à décliner, voire disparaître, et ils ont tout remis en question sur la personne de Paul. On peut dire qu'ils ont cru au mensonge du serpent. Et le vrai amour, c'est un amour qui procède, qui vient d'un cœur qui est pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur ? Un cœur pur, c'est un cœur qui est en communion avec Dieu. Le vrai amour vient d'un cœur qui est en communion avec Dieu. Quand on est en communion avec Dieu, mais il y a un vrai amour qui est là, un amour qui est naturel. Si j'aime Dieu avec un cœur pur, mais j'aime mes frères et sœurs. C'est naturel, ça coule. C'est ce que Jean dit dans son épître, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Nous connaissons, c'est une évidence. Quand j'aime Dieu, j'aime mon Seigneur et je pratique ses commandements, mais j'aime mes frères et sœurs. C'est normal, ça coule, c'est une réalité. C'est un constat que l'on peut faire. Il ne peut pas en être autrement. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et là, les Corinthiens avaient un problème parce qu'ils commençaient à ne plus aimer l'apôtre Paul. Ils avaient cessé de l'aimer parce qu'ils avaient écouté ces faux apôtres et la communion avec Dieu s'en est retrouvée altérée et leur amour a commencé à décliner. Ils se sont désaffectionnés de l'apôtre Paul. Vous savez, si à un moment vous marchez et puis vous n'aimez pas un frère, vous n'aimez pas une sœur, vous avez des mauvais sentiments, arrêtez-vous et dites-vous, je ne vais pas bien avec le Seigneur. Parce que si vous n'aimez pas un frère ou une sœur, c'est que vous n'allez pas bien avec Dieu. Ce n'est pas normal. On doit aimer les frères et sœurs. Et si on est en communion avec Dieu et qu'on va bien avec Dieu, on s'aime les uns les autres. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous est donné. Donc si je n'aime pas, je m'arrête, je dis pardon Seigneur, je n'aime pas, je ne vais pas bien. Restaure ma communion avec toi et donne-moi cet amour. Aide-moi à aimer. Ensuite, comment les Corinthiens pouvaient-ils avoir une bonne conscience en suivant la voie de ces faux docteurs, en rejetant l'apôtre Paul ? Et parfois, le cœur fait des choix qui ne sont pas forcément les bons choix. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais parce que le cœur est séduit par une autre voie. Une autre voie que le Seigneur. Ce n'est pas juste, ce n'est pas droit. Mais pourtant, on s'avance et on prend une mauvaise décision. Et là, on commence à transgresser sa conscience. Et c'est un vrai danger pour le chrétien. Que Dieu nous aide et nous préserve et qu'on reste intègre vis-à-vis de notre conscience. C'est vraiment important. Qu'on refuse de glisser dans un manque de droiture, un manque de transparence, de sincérité. Parce que si c'est le cas, on va se mettre en porte-à-faux avec la conscience et à un moment, un danger, c'est que on finit par étouffer. Étouffer la conscience, attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de tragique. Et ensuite, on fait plus qu'il faut et on devient même plus capable de le reconnaître. Ça y est, on est parti dans une voie. Regardez un peu la suite d'un Timothée, 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Et là, on voit ici qu'une conscience, elle peut devenir flexible, injuste, et après, c'est le naufrage. C'est un vrai naufrage. Et puis, on peut terminer aussi par ce que Paul nomme une foi sincère. Qu'est-ce qu'une foi sincère ? Une foi sincère, c'est littéralement, c'est une foi anupokritos. Anupokritos. En fait, c'est une foi sans hypocrisie. Une foi qui n'est pas hypocrite, une foi qui n'a pas un double visage, qui n'est pas feinte, qui n'est pas déguisée, qui est vraie. Je lisais une définition de la sincérité, l'expression fidèle des sentiments réels par la vérité. La sincérité, l'expression fidèle des sentiments réels par la vérité ou dans la vérité. Et donc une foi sincère, c'est une foi qui est vraie, une foi authentique, qui ne ment pas, elle est réelle. Et on peut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, encore une fois, dans l'attitude des Corinthiens et dans les reproches qui lui étaient faits. Qu'est-ce qu'on lui reprochait et qu'est-ce que reprochaient les faux docteurs? On va lire les versets 7 à 9 de 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, versets 7 à 9. Il dit « Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. » Et là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que les faux apôtres lui reprochaient de ne pas avoir reçu un salaire quand il avait enseigné les Corinthiens. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, dans la culture grecque, la notoriété de l'enseignant se voyait à la rémunération qu'il recevait. Donc s'il recevait beaucoup, c'était un grand enseignant. Et s'il recevait rien, c'était probablement un enseignant négligeable, de piètre valeur. Alors on lui reprochait, on disait, mais regardez, il reçoit rien du tout et il dit qu'il est un enseignant. Et c'était quelque chose de tordu finalement, quelque chose qui était hypocrite. Mais en fait, le fait que Paul enseignait de manière gratuite, c'était au contraire l'expression de son amour. C'était sa piété, son amour pour Dieu et sa générosité en tant qu'apôtre. Et en adhérant à ce genre de reproche, les Corinthiens étaient sous la menace de perdre cette sincérité dans la foi, qui aime, qui reconnaît l'amour. Tout était en train de se compliquer dans leur relation. Au départ, c'était l'amour qui régnait entre Paul et les Corinthiens. C'était la transparence, c'était simple, c'était spontané. Et puis après, c'est devenu la suspicion, c'est devenu les critiques, c'est devenu plein de contestations, de calomnies. Alors j'arrive à la conclusion de cette pensée. Voilà pourquoi Paul dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. » Autrement dit, vous êtes sur le point de perdre votre candeur, votre fraîcheur, votre honnêteté mentale, votre intégrité, votre cœur pur qui aime, votre bonne conscience, votre foi sincère, votre premier amour pour le Seigneur. Vous êtes en train de perdre tout cela. Et Paul s'alarme. Non seulement ils étaient en train de se détourner de cette simplicité, mais en plus, ils étaient en train d'accepter l'inacceptable. On va lire le verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Verset 20 maintenant. « Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » Et on voit que ces faux docteurs dominaient vraiment les Corinthiens, ils les tenaient dans un esclavage et littéralement ils s'emparaient de leurs biens. Parce que c'est ce que veut dire l'expression quand il dit « si quelqu'un s'empare de vous ». En fait, si quelqu'un s'empare de vos biens. Et on devine qu'en fait, eux, c'était des apôtres, les apôtres de Christ, des ministres de Christ. Et eux, ils avaient un cachet, probablement. Ils se faisaient rémunérer à la hauteur du grand enseignement qu'ils apportaient. Et c'est pour ça que Paul dit aux frères, mais finalement, vous êtes en train d'accepter un autre Jésus, ça. C'est un autre évangile, c'est un autre esprit. C'est pas l'esprit de Christ. L'esprit dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'intégrité. Et j'aimerais terminer avec une dernière question que l'on peut se poser, c'est comment en était-il arrivé là ? Comment l'église de Corinthe a pu dévisser ? Alors d'abord, il faut dire que c'était une église qui était jeune. Elle avait que quelques années, lorsque Paul écrit ses deux épîtres, peut-être 5-6 ans. Et donc, c'est certain, il y avait un manque de maturité. D'ailleurs, quand on lit la première épître aux Corinthiens, Certes, ils ont reçu tous les dons, mais il parle aussi de cette église comme une église charnelle, comme beaucoup de chrétiens qui ne marchaient pas avec le Seigneur comme il fallait. Donc, ça explique pas tout, mais quand même. Ensuite, ils ont été séduits, parce que ces ouvriers, c'était des Hébreux, c'était des Israélites, c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin dans le passage. Ils venaient de Jérusalem. Eux, c'était des païens. Je disais, mais quand même, voilà, toute la connaissance de Christ, tout nous est venu de Jérusalem. C'est là-bas qu'il y a les vrais apôtres. Et eux arrivent de Jérusalem, ils se présentent comme des apôtres de Christ. Ils ont été séduits. Ensuite, ils parlaient très bien. Ils avaient une éloquence qui était vraiment saisissante. C'est ce que Paul suggère au verset 6, puisqu'il dit « Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Et il dit probablement cela parce que, en fait, ces hommes étaient habiles dans l'art oratoire. Ils avaient beaucoup de facilité et Paul, eh bien, voilà, on lui reprochait peut-être de ne pas faire aussi bien. Et puis, quand ils sont arrivés de Jérusalem, ils se sont présentés certainement avec des lettres. Alors, peut-être c'est eux-mêmes qui avaient écrit les lettres, hein. Probablement, mais il semble qu'ils se sont présentés avec des lettres. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'épître, Paul dit « Mais est-ce que nous avons besoin de lettres de recommandation ?»« Mais nos lettres, c'est vous. Vous êtes nos lettres de recommandation. » Et donc, on pense que peut-être ils sont arrivés avec des lettres pour dire « Regardez, nous sommes vraiment des personnes dignes de crédit. » Alors, ils ont été séduits par tout cela, si bien que, ben voilà, ils ont baissé la garde et puis ils les ont acceptés. On peut dire que c'était une séduction du serpent qui était bien ficelée, qui était parfaite. Mais Paul va les dénoncer sévèrement. Regardez versets 13 à 15. Il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et Satan se déguise en ange de lumière. Combien il y en a qui disent qu'ils ont vu Marie en personne, ou bien un ange qui leur a donné une nouvelle révélation, qui leur a donné un nouvel évangile. Mahomet et puis Joseph Smith, les similitudes sont quand même frappantes, quoi, hein, tous les deux. Sont le dernier prophète. Tous les deux apportent un nouvel évangile, une nouvelle bonne nouvelle. Et l'ange qui est venu vers eux avait tout d'un ange. Il y avait l'éclat, si tant est que ce soit vrai pour les deux, hein. L'éclat, la lumière, le message, les paroles rassurantes. La même manière pour ceux qui ont vu Marie, hein. Ils ont vraiment cru voir Marie. Mais qu'est-ce que dit la parole ? Elle dit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » En fait, il n'y a pas plus clair que ce verset. La révélation, elle est achevée, terminée. Il n'y a pas de nouvelles apparitions qui pourraient venir ajouter quelque chose. Non, c'est mensonger. Maintenant, si Satan trompe les hommes de cette manière, alors eh bien, c'est normal que ses ministres agissent aussi de la même manière. Et certains se déguisent en apôtres de Christ. Alors aujourd'hui, c'est assez rare qu'une personne arrive avec une lettre de recommandation et essaye de venir détourner une assemblée. C'est arrivé, hein. C'est arrivé dans certaines assemblées. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est une autre manière de faire de la propagande. C'est par les vidéos. Si vous regardez sur YouTube, mais des faux prophètes, des faux apôtres, vous allez en voir. Il y en a beaucoup. Et on peut dire que la communication aujourd'hui, elle se fait davantage par Internet. Le serpent essaye toujours de séduire, mais il est plutôt dans une attaque qui est individuelle, personnelle, tout seul. Essayer de détourner de droite, de gauche. Et on doit être vigilant. L'apôtre Jean a dit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'était vrai à son époque et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et des faux prophètes qui détournent, il faut éprouver les esprits. Et même S'il y a cette parole qui est rassurante, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Même s'il y a cette parole, il faut se dire aussi, l'ennemi est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc, il peut aussi venir planter des pensées mensongères, des erreurs. Alors, j'aimerais terminer avec ce verset, 2 Corinthiens 11, verset 3, et on va lire la deuxième partie. Paul dit, « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et nous sommes une Vierge pure, présentée à notre Seigneur, notre Sauveur, notre fiancé. Et un jour auront lieu les noces de l'agneau. Ça y est, nous serons unis pour l'éternité avec le Sauveur. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le Seigneur ? Est-ce qu'on a gardé cette fraîcheur, cette candeur, cette simplicité, cette spontanéité ? Est-ce qu'on reste toujours aimant ? Est-ce qu'on est toujours cette Vierge pure, entière, consacrée pour le Seigneur ? On se souvient de cette parole en Apocalypse 2, et versets 4 et 5. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et le Seigneur dit ce que nous devons faire si on a le sentiment que notre relation avec lui s'est distendue, notre amour pour lui c'est altéré. En fait, il dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où, ça y est, tu as commencé à t'écarter de moi. Rappelle-toi. Repens-toi. Confesse ton péché. Dis, pardon Seigneur, là je me suis écarté. Et puis, pratique tes anciennes œuvres. Reviens à ce que tu faisais. Reprends les bonnes habitudes que tu avais. Continue, persévère. Et tu seras restauré. Et tu recommenceras à marcher de la même manière que tu marchais. Qu'on puisse revenir à notre consécration d'antan, si on a le sentiment qu'on l'a perdue.